les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. C'est bien connu. Georges Brassens, ça me fait plaisir d'écrire mes chansons, disait-il. Ça me fait encore plus plaisir que mes petits cris soient entendus. Je ne chante pas très fort, mais on m'entend un petit peu. C'était début 1968 sur France Culture. L'émission Soirée de Paris revenait sur l'attribution d'un grand prix de poésie à Georges Brassens.
Brassens devant l'Académie. Une émission de Fernande Bergerac, réalisée par Claude Dupont.
En 1954, Georges Brassens obtient un grand prix de l'Académie Charles Cros pour sa chanson « Le parapluie ». En 1965, cette même assemblée lui attribue également un grand prix, mais pour ses 10 ans de chanson. Et en 1967, c'est l'Académie française qui lui décerne un grand prix de poésie. Ce prix a étonné plus d'un. En effet, Brassens, champion de l'anticonformisme, se voit couronné par l'assemblée réputée conformiste, ou en tout cas qui représente les valeurs établies. Trois académiciens, Maître Maurice Garçon juste avant sa disparition, Marcel Achard, Pierre-Henri Simon nous ont donné leur point de vue, nous allons les confronter à celui du lauréat Georges Brassens. C'est dans sa roulotte des Tréteaux de France que nous l'avons rejoint un soir de cet hiver.
Ce prix de l'Académie, je ne l'attendais pas, je ne l'avais pas brigué d'ailleurs, je n'avais rien demandé. On me l'a donné, on me l'a proposé, alors j'ai pensé que c'était très gentil de la part de certains académiciens de me donner ce prix. Je l'ai accepté de bon cœur, mais enfin, j'aurais quand même pas fait les pieds au mur pour l'obtenir. En réalité, vous savez, à propos de l'anticonformisme, moi personnellement, je ne m'en aperçois pas tellement. Ayant l'habitude de vivre avec moi-même, si j'ose dire, ayant l'habitude d'écrire comme j'écris, je ne sais plus tellement maintenant si je suis anticonformiste et par rapport à quoi, voyez. Depuis un certain âge, depuis l'âge de 17 ou 18 ans, je m'amuse à ruminer des idées qui sont plus ou moins à d'autres d'ailleurs, et que je transforme et que je digère, que je fais mienne. Et puis j'ai eu une façon de vivre aussi pendant quelques années qui m'a tenu un peu en marge des autres, si vous voulez, enfin des gens normaux. Ce qui fait que ça m'a donné une espèce de caractère, une façon, une attitude dans la vie, une façon d'être un peu différente de ce qu'on voit ordinairement, c'est tout. Mais je n'ai pas visé à l'anticonformisme, je n'ai pas fait ça. Je me suis chanté, je me suis raconté mes histoires, et je les ai chantées pour moi d'abord et puis pour les autres, sans aucun parti pris d'anticonformisme ou de non-conformisme. C'est par la suite qu'on m'a trouvé. Moi, quand on m'a appelé non-conformiste, je ne savais même pas que j'étais non-conformiste. J'avais tellement l'habitude de vivre un peu en marge de tout que il me semblait que c'était comme ça qu'il fallait être.
Enfin, c'était pour moi, les autres qui étaient différents de vous.
Oui, les autres.
Et pas vous différents des autres.
Oui, mais d'ailleurs, je pense que les êtres ne sont valables que dans la mesure où ils diffèrent un peu des autres. Vous savez, ce qu'il y a de valable sur la Terre, ce sont précisément les petites différences. Mais je ne le fais pas exprès d'être différent, c'est un fait. Comme ça, je n'en ai aucun mérite et je ne fais aucun effort pour l'être. Je suis ce que je suis et j'essaie de l'être le plus, je dirais pas sincèrement possible, mais enfin le plus... J'essaie d'être le plus près possible de ce que je crois être. Je ne sais plus tellement. Vous savez ce que je suis. À 20 ans, on sait exactement ce que l'on est. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se pose des questions. On devient plus circonspect quand on se juge soi-même et d'ailleurs aussi quand on juge les autres.
Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, braves gens,
C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Marcel Achard, vous avez été de ceux qui ont fait campagne afin que le Grand Prix de poésie de l'Académie française fût décerné à Georges Brassens.
Notre mérite n'est évidemment pas d'être venu au secours de la victoire. Georges Brassens, avant notre prix, avait déjà détruit cette idée, disons-le, absurde, qu'un poète doit être méconnu et au besoin légèrement maudit. Remarquez que Georges Brassens a tout de même été un tout petit peu maudit. Quelques-unes de ses premières chansons, qui n'étaient d'ailleurs pas les meilleures, étaient bien faites pour épater le bourgeois. Mais depuis presque 20 ans, épater le bourgeois est un exercice pratiquement impraticable. Jean Cocteau lui-même, qui avait du génie dans cet ordre d'idées, n'a pas pu y réussir. Les derniers adversaires de Brassens ont disparu et notre prix a été reçu avec, disons-le, un enthousiasme qui nous a nous-mêmes surpris. C'est tout de même une bonne chose puisque maintenant, on s'attend à tout de l'Académie française et nous avons perdu une fois pour toutes. Enfin, quand je dis une fois pour toutes, je veux dire provisoirement. Notre réputation de raseur et de vieux jeton, comme nous ne disons pas encore en séance. En votant pour Brassens, qui est un individualiste forcené, ben nous avons voté avec la foule.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
J'aimerais cerner de près un petit peu plus le problème de la forme dans vos chansons. Une thèse a été écrite en Sorbonne, a été soutenue en Sorbonne par Anne Guyot,
oui,
qui s'intitule, je crois, « Valeurs expressives du français, oui, dans la chanson moderne ». Et je crois qu'on a relevé certaines libertés de style, certaines, oui, élisions de muets, certaines élisions, oui, qui peut-être en poésie sont moins admises qu'en chanson,
oui, bien sûr,
certains enjambements qui sont bons au point de vue rythme et,
oui,
qui peuvent gêner au point de vue grammaire.
Oui. En réalité, sous le rapport de la forme, j'ai d'abord été traditionnaliste et j'en ai pris un peu à mon aise avec certaines traditions et certaines lois de l'art poétique parce que à mes débuts, j'essayais d'écrire dans une métrique assez traditionnaliste. Puis ensuite, comme j'ai écrit des chansons, j'ai pensé que je pouvais en prendre à mon aise, avec les muets quand il le fallait. Vous voyez, puis les muets, les élisions, ajoutent à la chanson quelque chose de familier, vous voyez, enlève un côté un peu solennel, ça fait plus direct. Je pouvais très bien me passer de faire ces élisions. Vous savez, il est relativement facile de changer un vers et d'en mettre un autre à la place. Je les ai laissés, je les ai même parfois recherchés exprès pour être justement plus familier. Parce que comme parfois j'employais un langage, disons, assez châtié et assez difficile pour un public non averti, j'ai pensé qu'à la faveur de ces licences poétiques, disons, les licences qu'on emploie dans la chanson, je pensais être plus accessible au public tout simple, quoi, qui n'a pas beaucoup de culture, mais qui est capable de sentir cela. Et puis c'est dans les chansons traditionnelles, les chansons dites du folklore, qui sans doute n'ont pas été faites par le peuple, mais qui ont été remaniées par lui, on prend justement des tas de liberté, des tas de licences. Alors j'ai fait pareil, j'ai mélangé, si vous voulez, l'art traditionnel avec une certaine liberté. Mais vous savez, d'autres poètes avant moi l'avaient fait, sans parler des surréalistes. Avant, du temps même des symbolistes, il y avait des gens qui écrivaient quand même sans tenir compte de la versification traditionnelle.
Et l'on a d'ailleurs dit que vous aviez ainsi retrouvé la langue des trouvères, des fabliaux, des
troubadours. Oui, en réalité, je continuais ce que faisaient les autres dans le même chemin, quoi. Seulement, comme mes maîtres étaient évidemment Marot, Régnier, Rabelais. Enfin, je crois être dans la tradition à écrire comme on a presque toujours écrit. Vous savez, il semble cela parce qu'en chanson, j'ai traité des sujets qu'on n'avait pas l'habitude, du moins à ces temps-ci, de traiter. D'autres les avaient traités bien avant moi. Au siècle dernier, quand on faisait les chansons, on employait les mêmes thèmes que moi. Les thèmes ne sont pas très nombreux, finalement. Vous savez.
Vous en avez tout de même inventé quelques-uns qui sont d'ailleurs du plus heureux effet. Je pense aux fameuses mégères gendarmicides.
Ah oui, oh ben ça c'est un
néologisme. Ils sont très heureux, d'ailleurs.
C'est un néologisme amusant aussi.
Au point de vue de la versification aussi, elle est très libre et oui. Vous essayez toujours de retrouver la forme populaire et quasi-folklorique.
J'essaie de retrouver la forme populaire et quasi-folklorique, mais je le fais quand même, malgré tout, avec une certaine mesure, en y allant assez doucement. Et j'essaie quand même que le vers qui précède et le vers qui suit soit traditionnaliste. Vous voyez, oui. C'est un mélange, tout ça.
Il y a souvent
un peu le baroque là-dedans, quoi, un peu tous les styles.
Il y a souvent une mélange entre des alexandrins ou des vers courts.
Oui, mais ça c'est toujours fait, ça, La Fontaine, par exemple. Mais mettre, par exemple, un enjambement un peu audacieux après un vers solennel, justement, donne quelque chose de familier, quelque chose de gai, vous voyez, quelque chose, bien qu'on m'ait accusé d'être triste, quelque chose de gai là-dedans, quelque chose de léger, d'un peu badin, si vous voulez, qui...
On a dit que vous étiez un grand manieur de rythme, d'ailleurs. C'est peut-être en raison de cela.
Oui, mais enfin, je n'arrive quand même pas à la cheville des grands, vous savez, il ne faut pas exagérer.
Et une chose qui est très frappante, ce sont ces transpositions des expressions consacrées. J'en ai relevé certaines, oui, que je trouve particulièrement agréables et heureuses. En suivant mon chemin de petit bonhomme, la petite sœur des pauvres de nous,
oui, bien
je ferai la tombe buissonnière. Enfin, il y en a toute une série qu'on relève dans toutes vos chansons. Est-ce qu'elles vous viennent naturellement ou est-ce que vous les recherchez ?
Je les recherche un petit peu. Parfois, elles me viennent naturellement. Il m'en est venu 2-3 naturellement. Et ensuite, comme j'avais trouvé mon bonheur et mon compte dans cette transformation, j'ai continué.
Vous n'êtes pas le seul à avoir trouvé votre bonheur. Beaucoup d'autres y ont répondu, puisqu'ils semblent les apprécier.
J'en suis ravi. Ça me fait plaisir d'écrire mes chansons. Ça me fait encore plus plaisir que mes petits cris soient entendus, bien sûr.
Marcel Achard.
On nous reproche les élisions de Brassens, par exemple, les petites chansons, les « Je t'adore », les « Sales types », les « J'en ai bien voulu », etc. Ben, nous ne trouvons pas nécessaire à un poète d'écrire suivant l'art poétique de Boileau. Dans une chanson, c'est la musique qui commande. Et d'ailleurs, nous ne trouvons pas que Brassens prenne tellement de liberté avec les rimes. On lui a reproché aussi ses néologismes. J'avoue qu'il m'enchante. On invente chaque jour des mots nouveaux au profit de la science. J'avoue préférer ceux de Brassens qui sont bien plus amusants, plus nouveaux et, disons-le aussi, heureusement plus inutiles. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Brassens a l'excuse de travailler non pour la machine, mais pour l'art. Une chose m'a frappé, c'est qu'à la rencontre de presque tous les faiseurs de chansons, même le grand traîné, il n'y a guère de vers de remplissage chez lui. Le vers qui précède la chute n'est jamais là seulement pour justifier le vers suivant, vous l'avez remarqué.
« Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire un main correct, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
Eh bien, de la liberté de forme, j'aimerais venir maintenant à la liberté plus spéciale dont on vous a souvent parlé, de l'emploi des fameux gros mots dont on paraît-il, oui, c'est votre croix. Alors j'aimerais savoir la vérité. Est-ce que c'est vraiment votre croix ? Non. Est-ce que vous le faites naturellement ou parce qu'on vous l'impose ?
La vérité est très simple. Dans la vie, je ne suis pas du tout un grossier personnage. Et je m'exprime dans une langue sinon châtiée, du moins à peu près expurgée, quoi. J'emploie deux, les trois gros mots courants que tout le monde emploie en se coinçant les doigts dans une porte ou en voyant un chauffeur qui vous passe devant le nez, quoi. À part ces expressions-là, les autres, je les ai un peu recherchées dans mes chansons. Mais il faut dire qu'il y a assez longtemps que je fais des chansons et à l'origine, je les ai faites pour amuser des copains. Et à 17-18 ans, cet âge-là, on a l'esprit de salle de garde et on s'amuse évidemment à choquer le bourgeois. Et moi, j'ai tellement pris l'habitude de faire ça que j'ai continué longtemps après. Et ça a fini par devenir une seconde nature, si vous voulez. En somme, quand je m'exprime devant mes amis, enfin dans la vie courante, dans la vie normale, je m'exprime à peu près correctement. Quand je deviens en scène, quand je passe en scène, je deviens un peu grossier. Mais je pense quand même encore que maintenant je ne m'en défende plus, maintenant peu m'importe. Ceux qui savent, comme disait l'autre, me devinent. Ceux qui aiment mes chansons, si les gros mots les choquent, ils finissent par les oublier un peu. Puis à force de les dire, ces mots perdent quand même un peu, sont un peu désamorcés. Il me semble que maintenant, d'ailleurs il me semble, en regardant la télévision, en allant au cinéma, il me semble n'être plus le seul maintenant à dire des gros mots, voyez. Je crois que maintenant le gros mot a perdu un peu de sa virulence, de sa violence.
Est-ce que vous ne pensez pas que parmi les académiciens qui vous ont attribué ce prix de poésie, beaucoup ne connaissaient pas l'usage de ces gros mots et qu'ils seraient peut-être surpris de les entendre?
Ah, vous savez, Marcel Pagnol, lui, les connaît très bien parce que c'est un de ceux justement qui tenait absolument à ce que j'obtins, puisqu'on parle à l'Académie française, en employant la parfait du subjonctif, j'obtins le prix. Il les emploie, lui, avec beaucoup de bonheur. En somme, j'essaie de faire, si vous voulez, un peu comme Pagnol. Quand Pagnol fait dire un de ses personnages, par exemple dans sa trilogie, lui fait dire un gros mot comme merde ou autre, il le lui fait dire à bon escient, c'est-à-dire on ne peut pas dire autre chose si on l'enlève. Et moi, j'essaie de faire ça dans certaines de mes chansons, comme dans Marinette, le fameux mot de trois lettres, là, il est impossible de l'enlever. C'est l'effet de la chanson. Et je trouve que ce personnage de Marinette, là, qui dit de quoi il avait l'air avec son petit bouquet, son petit vélo, et puis sa petite couronne et son petit pistolet, n'est pas du tout choquant, au contraire, je le trouve attendrissant. Je trouve qu'il y a là-dedans justement une espèce de... Ce pauvre type qui arrive toujours après, toujours quand le train est parti, peut dire ce mot sans... Il en devient attendrissant, si vous voulez, en disant ce gros mot. S'il disait un autre mot, il serait moins attendrissant, vous voyez. Ça crée une espèce de choc, une espèce de contraste qui me semble indispensable pour que la chanson existe. Et dans les trompettes de la renommée, si j'emploie pas de gros mots, je suis perdu. En réalité, j'ai employé quelques gros mots dans mes premières chansons. Et puis par la suite, quand on m'a un peu échauffé les oreilles avec cette histoire de gros mots, je me suis dit, je vais en faire d'autres pour embêter ceux à qui ça ne plaît pas. Et puis...
Mais cependant, quand on relève la liste de vos chansons, on en trouve énormément qui n'en contiennent pas.
Maintenant, finalement, sur une centaine de chansons, je dois avoir une dizaine de chansons en comprenant des gros mots. Vous me direz que c'est beaucoup, 10%, c'est... ce que demandent les imprésaris, quoi, c'est pas terrible.
Tout de même, ce qui serait important de savoir, vous l'avez, je crois, dit, est-ce que c'est le public qui le désire? En tout cas, il y a un certain public qui réclame ces gros mots. Puis
non,
les
plus
autres.
Maintenant. À une époque, il fut un temps, comme dit l'autre, où un certain public réclamait des gros mots. Un autre, justement, se plaignait de ces gros mots. Maintenant, je pense que ceux qui m'aiment vraiment, enfin, mon public, enfin, c'est en admettant que j'en ai un, enfin, que je puisse dire à moi, en réalité, le public n'est pas seulement à moi, accepte très bien ces gros mots. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, il me semble que maintenant, à force de les entendre dire, ces gros mots, ils n'ont plus de...
Ils ont acquis droit de cité.
Ils ont acquis droit de cité, puis je vous dis, bien d'autres les emploient aussi, finalement, sans que personne ne s'en plaigne. Comme j'ai été un des premiers à le faire, et sur une scène de music-hall, évidemment, on m'a tout de suite traité de pornographe, de grossier personnage, de type mal embouché, mais enfin, vous savez, avec le temps, tout ça est fini. C'est une légende, ma grossièreté. Je suis capable de ne pas l'être, bien sûr.
Que pensez-vous de cela, Marcel Achard ?
Ben, les gros mots dans la chanson ont leur lettre de noblesse, n'est-ce pas ? Les orfèvres à la Saint-Éloi, la fille du roulier, v'là la patrouille, attends-moi là. Enfin, je parle de quelques-uns qui me viennent à l'esprit maintenant. Mais il n'est peut-être pas nécessaire de faire entendre les chansons de Georges à des moins de 16 ans ou moins de 13 ans. J'ai la certitude qu'ils ne répondraient rien, d'ailleurs, et depuis longtemps, ils sont familiarisés, si ce n'est dans leur famille, du moins à l'école, avec les plus gros d'entre eux. Et ne me dites pas que l'irrespect dont Brassens fait preuve envers les gendarmes, par exemple, est plus délétère que celui que manifeste à tout propos le guignol de Lyon ou le guignolet de Paris. La maréchaussée a toujours fait les frais de l'ironie chansonnière.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or, quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison ? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempérie. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Mon bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps, auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin, dans le mille de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
En ce qui concerne le fond, certaines histoires, disons, sont un peu lestes, gauloises, oui. Rabelaisiennes.
Mais il y a peu d'allusions, vous voyez, dans mes chansons. Alors je crois que je dis les choses tout net, quoi. C'est une espèce de... la façon que l'on avait de parler avant le grand siècle. Oui. On ne parlait plus librement.
Je vais plus loin, je parle du fond. Je pense aux histoires même, qui souvent sont un petit peu lestes. Gorille, par exemple.
Ah oui, bien sûr, le gorille, oui. C'est peut-être la seule, justement, dans laquelle il n'y a pas de gros mots.
Non, mais l'histoire n'a pas besoin de gros mots.
C'est justement la seule, peut-être, que je pourrais assimiler aux chansons à sous-entendu. C'est la seule qui ne soit pas tout à fait honnête, si vous voulez. Les autres osent dire leur nom, celle-là ne le dit pas tout à fait. Mais je débutais, je n'avais pas encore l'habitude, je n'avais pas le courage de mettre des gros mots en ce temps-là.
Au fond, vous n'avez plus écrit de chansons aussi osées depuis le gorille.
Non, non. Mais je ne l'ai pas fait exprès, vous savez, d'écrire cette chanson comme ça. Il s'est trouvé que ça venait au bout de ma plume et je l'ai écrite parce que j'estime qu'il faut écrire ce qu'on a à écrire. Si le public ne l'avait pas voulu, le gorille, il ne l'aurait pas accepté. Du moment qu'il l'a accepté, si nous devons être condamnés, il est aussi coupable que moi, finalement. Il est mon complice.
Nous sommes tous complices puisque vous avez tellement de public et si nombreux.
Je suis très heureux. Je pense qu'il nous sera beaucoup pardonné le jour du jugement dernier.
Eh bien, on a dit que vous réagissiez par le rire à une certaine angoisse.
Oui, ça alors ça me dépasse. Ça,
oui,
ça
c'est votre professeur qui a dit ça, oui. Monsieur Bonafé, je crois. J'ai lu ça sous sa plume.
De l'extérieur, on juge mieux, on juge mieux un être que lui-même ne se juge. Vous savez, moi j'écris sans, comme je vis, sans tellement revenir en arrière, sans tellement faire le point. Je ne tiens pas tellement à m'analyser. Il y en a les raisons qui me font chanter tel ou traiter tel ou tel sujet, dire, parler de la mort, parler de la vie, parler de l'amour, parler de la chose sociale. Je me laisse aller. Quand une idée me vient, je la note. Quand une image me vient, je la note et j'en fais une chanson. Je ne tiens pas justement à m'analyser. J'ai peur que, en trop m'analysant, j'ai peur de...
Vous avez peur de trouver cette angoisse?
Oui, si un oiseau savait dire ce qu'il chante et pourquoi il chante, comme disait Valérie, et il ne chanterait pas.
Ce serait dommage que vous ne chantiez pas.
Je ne chante pas très fort, mais enfin, on m'entend un petit peu.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées. Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée, et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté. Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé.
Au point de vue de votre philosophie, on vous a taxé d'anarchie. Quelle définition pourriez-vous nous en donner ?
Une définition, non, c'est une attitude en face de la vie. Là, c'est une attitude qui me convient. Je n'ai pas de solution collective, vous voyez, mais j'ai une façon d'être dans la vie assez proche de cette philosophie. Je dis assez proche dans la mesure où, dans un certain système, il est difficile d'appliquer au pied de la lettre sa morale et sa philosophie. J'ai une espèce de philosophie, et surtout de morale anarchiste, un certain comportement en face de certains problèmes. C'est un comportement de l'individu, vous voyez, je ne tiens pas justement à faire en sorte que les autres agissent et se comportent comme moi.
Mais ça veut dire quoi pour vous, anarchie ? Ça veut dire liberté ?
C'est la liberté de l'individu, c'est tout simple. Et cela implique évidemment, quand on a cette notion de liberté de l'individu, qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec l'armée, pas tout à fait d'accord avec les lois, pas tout à fait d'accord avec le parlementarisme, et même quand je dis pas tout à fait, j'exagère, c'est pas du tout. C'est surtout une attitude, une espèce de morale, mais qui ne peut pas s'appliquer au pied de la lettre parce que, bien sûr, on vit dans un système, dans un régime qui a ses lois, ses mœurs, ses habitudes. C'est assez compliqué, d'ailleurs, à expliquer.
En fait, c'est une morale qui n'est réservée qu'à un seul, parce qu'on voit, imagine mal une société où tout le monde serait anarchiste.
Oui, c'est une morale qui est réservée à un seul, mais c'est quand même une morale que je ne suis pas le seul à avoir. Vous savez bien, des hommes le sont sans le savoir, à leur insu, vous voyez, qui suivent évidemment la route traditionnelle parce qu'ils n'ont pas de choix. Moi aussi, j'ai l'air de suivre la route traditionnelle, mais je n'en pense pas moins, vous voyez. C'est surtout cela, c'est à l'intérieur que ça se tient.
Et vous l'exprimez dans vos chansons, et vos chansons plaisent, donc
j'essaie
ça correspond...
Je n'exprime pas ça seulement dans mes chansons, mais j'essaie de l'exprimer, enfin. Par liberté, j'entends liberté en face des morales qu'on essaie de nous imposer, vous voyez, les morales de groupe que l'on essaie de nous imposer. C'est cette liberté-là. Je crois être assez libre à l'égard de toutes ces morales-là, mais c'est assez difficile, vous savez, parce qu'on est bombardé continuellement par les autres morales, on est cerné tout le temps par quelque chose. On est obligé tous les jours de refaire cette petite philosophie, de faire le point. Si je ne fais pas le point quand j'écris mes chansons, là pour ça, j'essaie quand même de ne pas me laisser séduire par les slogans. Nous vivons à l'époque des slogans, précisément, chacun nous promet un petit paradis, enfin... Le seul paradis que je préconise, moi, c'est le paradis de l'individu qui a sa liberté, qui a ses libertés, d'ailleurs, même dans la société actuelle et même dans une société pire, finalement. C'est ce qui a fait dire à certains que, finalement, j'étais assez conservateur, puisque je ne tenais pas à voir changer la société, puisque moi, je m'en accommodais bien en me fermant à cette société, en me créant une morale. Mais ça, ça peut se discuter aussi, parce que c'est pas tellement facile non plus. La preuve, vous voyez, c'est qu'on vient vous poser des questions comme les vôtres. C'est pas tellement facile d'avoir une morale individualiste et individuelle. C'est difficile d'être tout seul, finalement.
Marcel Achard.
Non, les poètes sont jamais vraiment des solitaires. Sauf quand il était poursuivi, par exemple, par Maréchaussée, justement... Villon disait sévère à ses petits copains, les truands de l'époque. Ronsard faisait partie de la Pléiade avec toutes sortes d'estimables rimailleurs. Molière, Boileau et La Fontaine se retrouveraient régulièrement autour de bonnes bouteilles à l'auberge de la Pomme de Pin pour se jeter à la figure leurs dernières œuvrettes. J'en passe et des meilleurs. Un poète n'est pas un homme seul. Comment dirais-je ? C'est un homme qui s'isole, qui se tient à l'écart pour mieux voir. Mais comme la poésie nourrit surtout son homme, disons-le, musical, les truands de Villon, les collègues de la Pléiade et les bons vivants de la Pomme de Pin remplissent les salles de musical, et de quelques-uns, ils sont passés à 2000. Brassens est un anarchiste d'un genre spécial. Ses bombes sont musicales, anodines en apparence, mais elles pourraient bien se révéler plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air. C'est pas un anarchiste du type Marat et Carmagnol, mais plutôt un anarchiste style Jules Vallès ou Laurent Taillade.
Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces, où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant monsieur le maire. C'est dans un char à bœuf, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les vieux amoureux firent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Cortège nuptial hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Voici le vent qui souffle, emportant crève-cœur, le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voilà la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue, sur mon harmonica, jouant les grandes orgues. Tous les garçons d'honneur montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue et vive la mariée.
Peut-on dire que la chanson, considérée jusqu'à présent comme un genre mineur, va s'élever au rang de la poésie grâce au prix que l'Académie française a attribué à Georges Brassens?
Dire que c'est un genre mineur, ça a pu longtemps être un genre mineur parce que la chanson s'adressait à un certain public, la chanson était destinée à amuser le public pendant quelques heures, vous voyez. Alors évidemment, ceux qui écrivaient les chansons ne visaient pas bien haut. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, quand un poète mineur fait une chanson, c'est de la poésie mineure. Si les grands poètes, au lieu d'écrire pour l'imprimerie, avaient écrit pour être écoutés, vous savez, nous aurions de très très belles chansons. Il va sans dire que des gens comme Victor Hugo, comme Verlaine, si ces gens-là avaient écrit des chansons, la chanson ne serait pas considérée comme un genre mineur. Le malheur, enfin ça n'a pas d'importance, ils ont écrit autrement. Le sort a voulu qu'ils écrivent pour les yeux et non pour les oreilles.
J'avais désiré recueillir l'opinion d'un grand spécialiste du discours, Maître Maurice Garçon. Je le trouvais chez lui déjà très menacé, et quelques jours après, il disparaissait. J'ai gardé comme un émouvant témoignage ces quelques mots.
J'ai considéré toujours la chanson comme appartenant au domaine poétique. C'est de la très bonne poésie, à laquelle il a donné un tour spécial. Le genre de la chanson est un genre de poésie, et où il faut supporter des vulgarités.
Marcel Achard.
Ah, ça, certainement. Et n'est-ce pas, justement, c'est là que je me sers part de certains bons auteurs qui veulent que la poésie et la chanson soient deux choses complètement différentes. Il est bien vrai qu'il y a un élément nouveau dans la chanson, mais qu'est-ce que vous voulez-vous, c'est la seule forme de poésie qui ait été acceptée par le grand public. Avant, Victor Hugo avait des millions de lecteurs. La poésie, en devenant de plus en plus hermétique, a fait que c'est Brassens, qui est un poète, connu de tout le public.
Nous avons voulu connaître l'opinion de Pierre-Henri Simon, que nous avons interviewé dans son bureau de critique littéraire. Y a-t-il une crise de l'art poétique qui marque un divorce entre le public et la poésie contemporaine ?
La poésie, spécialement depuis 40 ou 50 ans, est devenue de plus en plus subtile, de plus en plus ambitieuse dans ses fins, qui ne sont plus la simple expression des sentiments profonds de la voix du cœur, mais la création d'un langage et presque un instrument de connaissance métaphysique. Tout cela peut parfaitement se justifier. Il est certain tout de même que la poésie est devenue ésotérique et que le grand public qui a besoin de poésie manque de familiarité avec les poètes. Alors c'est en ce sens que l'événement, car c'est un événement, qui fait que l'Académie française a donné son grand prix de poésie à un chansonnier, à Brassens, cet événement est un signe, et je dis bien le signe d'une crise. Car c'est une façon de donner au public, par la chanson, ce que les poètes, dans leur quête, je le répète, justifiable mais très ambitieuse, d'une expression absolue, ne lui donnent plus.
Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose, justement, cet accès nouveau à la poésie par l'intermédiaire de la chanson ?
Oui et non. C'est une bonne chose dans la mesure où le public reçoit par la chanson un courant poétique dont il a normalement besoin et dont il est sevré par ailleurs. Ça, à mon avis, ce n'est pas non plus une bonne chose, absolument. Parce que la chanson est un art, la poésie en est un autre. Et en particulier, dans la poésie, il y a un élément, comment vous dirais-je, de style, de composition, de travail du langage, qui ne peut pas se trouver au même degré dans la chanson. Un chansonnier, c'est quelque chose tout de même de différent d'un poète.
Vous reconnaissez pourtant à Brassens certaines qualités qui peuvent rejoindre celles des poètes.
Oui, et c'est en quoi le choix de Brassens, dès lors que l'on voulait un chansonnier, n'était pas mauvais. Ce qui me paraît important chez Brassens, ce qui me paraît avoir une valeur, et une valeur proprement poétique, c'est que, et tout de même, il a son langage à lui, qui est reconnaissable, qui est marqué au sceau d'une façon personnelle de voir, de sentir le monde, de rendre la vie. Il y a cela. Il y a une couleur spirituelle de la chanson de Brassens qui est un élément poétique. Mais le style de Brassens reste malgré tout avec sa familiarité, parfois sa grossièreté inutile, une certaine vulgarité aussi, quelque chose qui appartient assez normalement à la chanson, ou tout au moins, qui ne détonne pas dans la chanson, mais qui détonne dans la véritable poésie.
Vous savez que pour les Grecs, la poésie ne se concevait pas sans chant ni sans musique.
Mais bien sûr, ce qui éloigne la chanson de la poésie, ça n'est pas le fait de l'accompagnement musical, car il n'y a pas seulement les Grecs. À l'origine de notre poésie nationale, il y a les troubadours, n'est-ce pas ? Les poètes chantaient en s'accompagnant du luth, même encore au XVIe siècle. Louise Labbé, la Belle Cordière, s'accompagnaient au luth. Ce n'est pas l'intervention de la musique qui éloigne la chanson de la poésie, encore une fois, mais c'est que la poésie, la structure même de la poésie est verbale. Et alors, sur ce point, je dirais même plus. Ce qui me déconcerte aujourd'hui, chez un grand nombre de nos chansonniers, surtout chez les jeunes, c'est que trop souvent, leur matière verbale est extrêmement pauvre, extrêmement mal travaillée. Voyez, au XIXe siècle, Béranger était un chansonnier, n'est-ce pas ? et en même temps considéré comme un poète parce que ses chansons étaient tout de même présentées en forme de poème. Aujourd'hui, on retrouve encore la chose dans certaines chansons de Queneau, dans certaines chansons d'Aragon. On retrouve un texte qui pourrait être dit sans être chanté et gardé, et alors avoir là une valeur purement poétique. Trop souvent, se passe autre chose, c'est la musique, c'est la mélodie, c'est cette espèce de ton confidentiel, familier, bonhomme de la chanson qui fait tout, mais le style est trop loin.
Vous considérez cependant, je pense, puisque vous devez les connaître, que beaucoup des chansons de Brassens sont de bonnes chansons. Or, Segers a dit qu'il n'y avait pas de bonnes chansons sans poésie.
Non, c'est vrai. Je pense en particulier à une des chansons de Brassens qui me paraît les plus réussies. Le titre, à peu près exactement, pourrait être enterré sur la plage de Sète. Cet exemple, vous voyez, vient très bien, parce que on est obligé, quand on entend cette chanson, de penser à un modèle, à un très grand modèle poétique, et qui est le cimetière marin de Valéry. Eh bien, il est facile de comprendre que tout de même, n'est-ce pas, les deux œuvres sont sur deux niveaux littéraires différents.
Sûrement, mais Valéry n'a pas écrit son cimetière marin pour être chanté.
Non, mais la musique décasyllabique du cimetière marin est déjà une très belle musique, et une musique, encore une fois, qui enveloppe un verbe souverain. Je n'oserais pas dire que le verbe de Brassens soit toujours souverain, pas même dans cette chanson, qui pourtant, je le répète, a du caractère, de la sensibilité, et passe agréablement.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point, la rupture. Mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, Je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
Eh bien, je crois qu'il faut maintenant laisser à Georges Brassens le dernier mot.
Vous savez, tout ce qu'on dit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est surtout que quand vous poussez un petit cri, d'autres l'entendent.
Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé.
mais pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement. Mon enterrement. Des petites fleurs, des petites fleurs. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
C'était Brassens devant l'Académie. Une émission de Fernande Bergerac, avec la participation de Marcel Achard, Pierre-Henri Simon, maître Maurice Garçon de l'Académie française. Assistant de production Alain Pollet, réalisation Claude Dupont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 avril 1968. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.